Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Mais ça va bien, toujours.
Bon, ah, ça c'est bon, toujours. Sérieusement?
Oui, absolument.
Ah, oh, c'est bon, vous nous donnerez votre recette dans les moments les plus sombres, parce que ça se peut qu'on en ait hein, de plus en plus au cours de l'année. Alors, à ce moment-là, on vous avertira, puis vous nous apporterez une petite recette quelconque avant qu'on commence votre chronique.
Il y a rarement de moments sombres le vendredi matin.
Ah, oh, ça, c'est vrai, par exemple. C'est pas un bon
là,
moment.
C'est des paroles sages qu'on vient d'entendre.
Oui, vous avez bien raison. Alors, oublions les moments sombres. On va passer au travers, c'est sûr, comme on dit en bon québécois. La semaine dernière, Marcel, vous nous avez parlé du cancer sous l'angle, finalement, de l'évolution des connaissances, notamment dans son traitement. Et aujourd'hui, c'est un peu la suite, puisque vous nous parlez de l'Institut du radium qui a été le premier centre d'oncologie au Québec.
Oui, bien, on s'est laissé la semaine dernière au moment où on tentait de trouver des manières de soigner la maladie autrement que par des chirurgies souvent très risquées. Et parmi les voies qu'on considérait comme étant prometteuses dans le traitement, on retrouve l'utilisation d'un métal radioactif qui s'appelle le radium. Le radium a été découvert par Marie Curie, née Maria Skłodowska en Pologne en 1867, une des grandes scientifiques du dernier siècle et demi. Des recherches sont faites à différents endroits, notamment à l'Institut du radium de Paris, qui est fondé en 1914, à l'instigation de Marie Curie, qui en est une des co-directrices. Et parmi les scientifiques de partout qui vont s'intéresser au radium, mentionnons Joseph-Ernest Gendreau. Il est né en 1879 à Coaticook, et au moment de la Grande Guerre de 1914, il est en train d'étudier les sciences et la médecine en Europe. Il va notamment le faire auprès de Madame Curie. Il rentre au Canada, convaincu de la nécessité de doter Montréal d'un institut du radium. Il présente son projet au gouvernement du Québec. C'était pas grand-chose. Le gouvernement du Québec, à ce moment-là, c'est une structure bien légère comparée à ce qu'on a aujourd'hui, qui dépense très peu, tout particulièrement en soins de santé. Mais Gendreau va convaincre le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau d'autoriser une très grosse dépense, 100 000 $ pour acheter du radium. Évidemment, on ne peut pas avoir un institut du radium si on n'a pas de radium. Et j'en profite, Francine Nivant, je vous pose une question. À votre avis, dans le marché de 1922, moment où la transaction a été conclue, quelle quantité de radium pouvait-on obtenir pour ce montant énorme de 100 000 $? Essayez un chiffre.
Moi, j'aurais dit une tonne, là, je ne sais pas.
Une tonne, Francine?
Ben, 100 000 $, ça devait quand même coûter assez cher, mais à cette époque, oui. Bon, allons-y pour 5 tonnes.
3 grammes.
Ça c'est une meilleure réponse.
Oh là là, c'est qu'on plus on savait, plus on s'éloignait, là.
On a obtenu 1,25 grammes de radium pour notre 100 000 $. C'est un métal très, très rare et donc très difficile à acheter et très coûteux. La réserve nationale, cette toute petite réserve nationale de radium qu'on a eue, a été confiée au nouvel institut qui a l'équipement nécessaire pour dissoudre le métal, produisant ainsi des émanations. Mais heureusement, on pouvait quand même obtenir beaucoup d'émanations de radium avec cette petite quantité-là. En fait, on en avait suffisamment que l'Institut a pu les utiliser et il nous en restait pour partager avec d'autres hôpitaux de la province qui s'occupaient également de cancer sans ne faire que ça.
Marcel, puisque oui. Vous nous avez posé une question, je vais vous en poser une,
ben,
vous
allez-y.
Aussi. Est-ce que c'était normal, ça, de payer un tel prix pour une si petite quantité d'un métal quand même assez recherché?
Bien, comme je vous dis, c'est très rare comme métal. Marie Curie,
okay, c'est la rareté, OK.
Mm-hmm. Quand elle a découvert le radium, c'était extrait d'un minerai de l'uranium qui s'appelle le pêche blend. Ça prenait 3 tonnes de pêche blend pour obtenir 1 gramme de radium.
Ah
c'est,
bon?
C'est ça que je voulais dire.
Voilà. Donc,
moi, j'ai dit 5 tonnes.
C'est ce qui fait qu'il fallait dépenser des sommes comme ça pour en obtenir même une petite quantité, dont on obtenait quand même beaucoup d'émanations, là, comme je viens de vous le mentionner.
Ben, c'est ça, on pouvait faire beaucoup finalement avec cette petite
quantité. Heureusement,
oui,
il ne fallait pas réinvestir un autre 100 000 qu'on a à chaque année ou peu importe. On va donc inaugurer notre Institut du radium de Montréal en grande pompe en avril 1923. Il est alors situé dans les sous-sols de l'Université de Montréal, auquel l'Institut était affilié, université qui avait pignon sur rue dans le quartier latin à ce moment-là. Et dès ses débuts, L'Institut d'Ouachon a un double rôle de centre de recherche et de clinique d'oncologie et très vite, les locaux du sous-sol de l'université ne sont plus adéquats pour la quantité de patients qu'on a à traiter. Et on va se lancer à la recherche d'un meilleur endroit où installer l'Institut. Et on va regarder vers l'est de la métropole, plus spécifiquement le quartier Maisonneuve, qui avait été jusqu'en 1918 la municipalité de Maisonneuve. Comme la ville avait été fusionnée à Montréal, on avait un ancien hôtel de ville qui ne servait plus. On y installe donc l'Institut du Radium en 1926, situé rue Ontario, tout près de Pinneuf. C'est aujourd'hui la bibliothèque d'Hochelaga-Maisonneuve qui est dans cet édifice-là. Mais ça se voulait une solution temporaire dès le départ. On planifiait déjà à ce moment-là de déplacer l'Université de Montréal sur les flancs du Mont-Royal. Il était question d'adjoindre un centre hospitalier universitaire au projet. Ça ne s'est pas fait. On a plaidé par la suite pour l'installation d'un centre d'oncologie dans un édifice conçu spécialement pour ce faire. Ça demeurera lettre morte également. Mais non seulement on s'est trouvé très vite à l'étroit dans l'édifice de Maisonneuve et on a dû ouvrir des annexes, mais l'ancien hôtel de ville n'est pas du tout adapté à des opérations hospitalières. Une journaliste de la presse a décrit les lieux peu avant la fermeture de l'Institut en disant que la lumière y entre parcimonieusement. Les pièces fourmillent de coins et recoins les plus imprévus et l'encombrement crée une sensation d'étouffement. Dans le jargon moderne de 1967, on dirait que l'immeuble n'est pas fonctionnel. On réussira à s'en contenter pendant 4 décennies, mais la conception inadéquate des lieux sera empirée par les graves problèmes financiers qui ont accablé l'institution tout au long de son histoire. L'Institut venait d'ouvrir en 1924 lorsqu'on a demandé au personnel médical de redonner une partie de leur salaire parce qu'on avait de la difficulté à payer les factures. Ce qui n'a pas empêché, remarquez bien, l'Institut d'être nommé parmi les 5 meilleurs centres d'oncologie d'Amérique du Nord par l'American College of Surgeons au début des années 1930. Mais on a toujours tiré le diable par la queue. Malgré les subventions qu'on recevait de la province et de la ville, il faut dire que c'était bien mince, malgré les coupures de salaire, malgré le fait qu'on a demandé aux Sœurs de la Charité, les Sœurs Grises, de gérer l'Institut, et s'il y a bien une chose que les religieuses savaient faire, c'était de gérer des institutions, hôpitaux, orphelinats, écoles, etc., avec une absence presque totale de moyens. Mais un des gros problèmes qu'on a rencontrés à l'Institut du Radium, c'est qu'on n'avait pas assez de clients payants. À l'époque, les malades étaient véritablement des clients. Et techniquement, le gouvernement payait les factures médicales de ce qu'on appelait les indigents. Mais les hôpitaux finissaient toujours par offrir beaucoup de jours d'hospitalisation et beaucoup de consultations parce qu'il y avait énormément de gens qui n'avaient pas les moyens de payer sans pour autant remplir les conditions pour qualifier comme indigents. Et on s'est vanté à l'Institut du Radium de ne jamais refuser le traitement à personne. Mais la proportion de pauvres qu'on soignait était tout simplement trop grande. Ça aurait pris plus de gens qui logeaient dans des chambres privées, qui faisaient des gros dons à l'hôpital pour services rendus. Et je ne sais pas si le cancer, c'était une maladie de gens démunis. Est-ce que les personnes des beaux quartiers en souffraient moins? On sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui entrent en ligne de compte.
Encore aujourd'hui?
Ben, tout à fait, tout à fait. Est-ce que les gens plus fortunés avaient tout simplement pas envie d'aller se faire soigner dans l'Est et préféraient aller au Royal Victoria, à Notre-Dame, ou peu importe, où on avait des départements d'oncologie qui employaient très souvent des spécialistes formés à l'Institut du Radium? J'ai pas nécessairement de réponse à toutes ces questions-là. On peut présumer que ça entrait en ligne de compte, mais... Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Une partie de l'information que je vous transmets aujourd'hui vient d'un article très bien fait par l'atelier d'histoire Merci Hochelaga-Maisonneuve, et on soulignait le fait qu'il semble y avoir qu'une seule personne connue qui a été traitée à l'Institut du Radium, c'est la Bolduc, Mary Travers, qui est décédée en 1941. Pour le reste, que des quidam, que des gens inconnus. Et lors de certaines années, on dit que 70 % et plus des patients traités n'avaient pas les moyens de payer. Ça ne peut que faire un trou dans un budget. L'hôpital, donc, toujours dans le rouge, n'a pas les moyens d'innover, de se procurer des appareils à la fine pointe de la technologie, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on délaisse le radium en faveur d'autres éléments plus faciles à utiliser et moins dangereux. Et en mars 1967, on annonce très sobrement que l'Institut du Radium va fermer ses portes parce que, je cite, « d'autres centres ont été créés qui sont plus en accord avec les exigences modernes de la médecine ». Donc, l'Institut du radium, et je termine là-dessus, n'a pas rempli toutes ses promesses, c'est vrai, mais ça a été un rouage important des débuts de la lutte contre le cancer au Québec et au Canada. Et malgré toutes les embûches qu'on a rencontrées, on a soigné 67 000 personnes au total, souvent des gens tout au bas de l'échelle socio-économique. Et il faut rendre hommage aux employés qui se sont dévoués pour tous ces malades, qui l'ont fait très souvent dans des mauvaises conditions de santé et sécurité, et pour des salaires bien moindres que ce qu'ils et elles auraient pu gagner ailleurs.
Alors, on comprend que ça a été un déclencheur important, finalement, dans le traitement de cette maladie là, qu'on n'a pas réussi à éradiquer depuis toutes ces années. Mais c'est extrêmement intéressant et de voir aussi que ça a donné lieu à, je dirais, à une multiplication hein, des centres pour pouvoir justement se faire traiter.
Ça a été, je pense, un bon point de départ par rapport à ça. Tout était à faire au moment où est ouvert l'Institut du radium. Et bon, ça n'a pas, on n'y a pas trouvé la méthode miracle pour se débarrasser du cancer. D'ailleurs, on la cherche encore. Mais effectivement, ça a été un rouage important.
Mais merci, Marcel. Et puis, bien, on se retrouve à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.